Le masque et la plume. Avant de commencer à défricher la rentrée littéraire de janvier la semaine prochaine, l'actualité du cinéma est au sommaire du masque aujourd'hui. Sur la scène du théâtre de l'Alliance française, face à un public qui compte les élèves du lycée Buffon de Paris et ceux du lycée Édouard Herriot de Voiron, quatre critiques, Marie Sauvion de Télérama, Christophe Bourseiller de Transfuge et de France Inter, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles et Florence Colombani du Point. Le programme est le suivant, Father, Mother, Brother, Sister, chronique familiale de Jim Jarmusch, Ma Frère, film de colonie de vacances d'un duo de cinéastes qui réunit Lise Akoka et Romane Guéret, Anaconda, parodie de remake de l'américain Tom Gormican, Les échos du passé, prix du jury ex-aequo à Cannes de Masha Chilinski et un western italien intitulé Pile ou face de Alessio Rigo Derighi et Matteo Zoppis. Des critiques, des publics, des cinémas. Bonjour, bienvenue, voici Le Masque. Avatar 3, de feu et de cendres, la parole est à la défense, ou presque, Marie. Vous êtes nombreux à critiquer les critiques concernant le film de James Cameron. Depuis les Pays-Bas, Xavier Falière précise en préambule « Je suis scientifique, cartésien, et j'avoue, je suis complètement fan d'Avatar. J'ai su m'asseoir pendant plus de 3 heures et me laisser absorber par la magie des images. Il est parfois nécessaire de ne pas réfléchir et de se laisser aller. Rien n'aurait dû me plaire dans ce film », écrit Sandrine Velasco depuis Toulouse. Et oui, j'étais d'accord avec toutes les critiques. Nous y sommes allés en famille le 24 décembre au matin et j'ai adoré. J'ai volé sur des dragons, traversé des paysages extraordinaires, je me suis gavée de bons sentiments qui m'ont fait pleurer et j'ai vibré avec des personnages féminins super badass. Cette orgie de 4 heures m'a finalement économisé la prise d'antidépresseurs et a reconvoqué la petite fille émerveillée que je fus. Pouvez-vous adapter vos critiques à la nature du film débattu ? Demande Yann avant de conclure. Avatar exige d'être vu avec des yeux d'enfant. Les avis sont partagés pour L'agent secret du Brésilien Kleber Mendonça Filho, où l'on suit un homme en fuite à Recife sous la dictature brésilienne. Ennui croissant, intrigue floue, pot pourri, poussif, écrit Jean-Baptiste Maugard de Paris 17e, tandis qu'Arnaud Sanquer salue un grand film d'acteur et une leçon de mise en scène qui n'en met jamais plein la vue. Enfin, vous êtes plusieurs à conseiller L'englouti, beau film de Louise Aymon, lauréate des prix Jean Vigo et André Bazin. Et j'en termine avec la lecture d'un extrait d'une pièce de théâtre écrite par Elena Roussière, professeure et animatrice d'un atelier pour des sixièmes. Dans cette pièce, le masque est parodié avec un certain Jérôme qui annonce au programme, je cite, « le remake d'un film d'une réalisatrice bulgare avant-gardiste ». Un certain Jean-Claude s'exclame « c'est la palme de la série Z » et Jérôme de conclure « et voilà, je me serais encore brouillée avec la moitié de Paris. » On commence avec Father, Mother, Brother, Sister, père, mère, frère, sœur en français dans le texte, titre du nouveau long-métrage de Jim Jarmusch avec Tom Waits, Charlotte Rampling, Adam Driver ou encore Kate Blanchett. Casting de superstars donc pour un film sur la famille à travers 3 histoires différentes. 3 histoires qui mettent en scène les faux-semblants entre parents et enfants, la comédie que l'on se joue les uns avec ou contre les autres. La première histoire a lieu dans une maison de la côte est des États-Unis. Un frère et une sœur rendent visite à leur vieux père, qu'ils n'ont pas revu depuis longtemps. La deuxième histoire se déroule dans une maison de Dublin, où une mère accueille ses 2 filles pour le thé. Et le dernier chapitre du film est à Paris, dans un appartement vide où se recueillent des jumeaux, un garçon et une fille, qui ont la 20aine et qui ont vécu là avec leurs parents, morts dans un accident d'avion. Ces 3 récits sont liés par ce thème de la famille, mais aussi par quelques objets ou répliques qui sont écho d'un chapitre à l'autre, et mon tout a valu le Lion d'or à Jim Jarmusch lors de la dernière Mostra de Venise. Florence.
Je trouve que le Lion d'or dessert presque ce film qui a quelque chose de très aérien, d'un peu fragile et que le Lion d'Or, c'est une récompense qui écrase un peu, je trouve. Évidemment, je pense que le jury a aussi voulu récompenser Jim Jarmusch, cet immense cinéaste. Et c'est un film totalement dans l'esprit de son œuvre, avec à la fois ce côté ludique, comme tu disais, Rebecca, ces petites touches qu'on retrouve. Il y a des motifs, des thèmes, mais il y a aussi des choses visuelles ou des clins d'œil dans les dialogues qu'on retrouve de chapitre en chapitre. Et ça, c'est un plaisir pour le spectateur de jouer ce jeu de piste que nous propose Jim Jarmusch.
Mais surtout, ça nous fait complice.
Il nous rend complice, voilà, avec des notations qui sont drôles dans un des chapitres, mais qui deviennent mélancoliques dans un autre. Donc il y a toujours ces changements de couleurs, ces changements de palette. Il y a aussi son côté musicien qui ressort énormément, puisque tout est une question de rythme. C'est un film qui existe beaucoup dans ses silences, puisque dans tous ces groupes parents-enfants, c'est vraiment ça le thème du film, les parents vieillissant avec leurs enfants adultes pour les deux premiers chapitres, et ensuite dans le dernier, les parents sont morts, et donc c'est comment on survit à ses parents. Eh bien, à chaque fois, il y a des choses qui se disent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne se disent pas, beaucoup de choses qu'on comprend dans les silences, dans les plans. Et pour moi, c'est un très grand film sur l'enfance. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que c'est un film où on ne voit pas d'enfant. Et finalement, il nous parle vraiment d'enfance jusqu'au moment où, dans le dernier chapitre, que je trouve le plus émouvant, la sœur, qui est jouée par Indy Amour, qui est donc une jeune femme qui a la vingtaine, s'assoit comme une petite fille sur le comptoir de la cuisine, comme elle le faisait quand son père cuisinait, et réussit à évoquer, convoquer cette image pour nous qui n'avons jamais vu ses parents et qui n'existent pas en flashback, qu'on doit imaginer. Et donc là, il y a tout l'art de Jim Jarmusch, c'est-à-dire qu'il sait faire exister des choses sans les montrer, en nous les suggérant, parfois avec une ironie terrible, comme dans le premier chapitre où on a un père manipulateur, le personnage de Charlotte Rampling dans le deuxième chapitre est aussi assez glaçant. Mais ce thème du parent metteur en scène qui agence en fait ce qu'il veut révéler à ses enfants de lui-même, dans quel but, ça reste une question ouverte. C'est un thème très fort qui finalement, je ne crois pas l'avoir déjà vu traité. Je trouve que là, Jim Jarmusch nous donne quelque chose d'assez unique.
Marie.
Alors, je voudrais pas être lapidée à la sortie, mais je dois quand même avouer, pour dire d'où je parle, que j'ai jamais vraiment été bouleversée par le cinéma de Jarmusch, même si j'ai bien aimé certains de ses films, notamment sur les vampires.
Et pour celui-ci, alors ?
Alors, pour celui-ci, je dois dire que j'ai été assez sensible à son charme, et que cependant, j'ai trouvé ce charme très volatile. Pour moi, le plaisir va vraiment décrescendo, entre le premier, le deuxième et le troisième segment. J'ai d'abord un plaisir d'acteur, parce qu'il se trouve qu'il a des acteurs absolument merveilleux, que je suivrai Adam Driver au bout du monde, et que plus il lui fait jouer des personnages vraiment ennuyeux, sinistres, etc., plus je m'amuse. Par ailleurs, j'aime effectivement le côté ludique, le goût des objets, le goût des ce qui fait passer par sa mise en scène ces personnages qui cherchent leur place et qui vont changer de siège 18 fois de suite, trinquer avec un verre d'eau, trinquer avec une tasse de thé, etc. C'est un choix de filmer la famille et de partir du principe que les gens n'ont rien à se dire. C'est un choix, pourquoi pas. D'interview en interview, ils disent pour montrer comment on est bousillé par ses parents. Et il le fait à sa façon, c'est-à-dire une cruauté molletonnée, quelque chose d'extrêmement chic. Moi, j'ai toujours une petite méfiance par rapport à ça. Déjà, quand on me dit « c'est pas un film, c'est un haïku », au secours, parce que j'ai l'impression qu'on s'est pas foulé.
On n'a pas dit ça.
Non, je l'ai lu. Et par ailleurs, je me méfie du cool forcené que je sens parfois, qui n'est pas ma came, qui est une autre forme de bon goût, un bon goût rock, un bon goût qui un peu dans voilà, qui se reconnaît.
Jarmusch,
on a
quoi.
Sorti nos vêtements, etc. Oui, mais je dois dire que ça ne me touche pas beaucoup et que au-delà du geste que j'admire et que je trouve plutôt réussi, en tout cas dans les deux premiers segments, cette espèce de nonchalance fait aussi qu'à un moment, moi, je manque de matière. Il y a un autre esthète qui a sorti les costumes de ses personnages, qui veille à la déco, qui veille aux objets, c'est Almodovar. Et il y a, malgré tout, même dans son versant tragique contemporain, il y a des passions latines chez Almodovar auxquelles je peux me raccrocher et qui m'humanisent finalement la belle affiche.
Ce qui, là, donc, pour toi, n'était pas le cas concernant Jarmusch.
Voilà.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christophe?
Je ne suis pas du tout d'accord, parce que moi personnellement, je suis un peu comme toi, Marie. J'ai toujours trouvé que Jarmusch, c'était un peu surfait, un côté un peu snob, tout le monde s'enthousiasme, tu sais que c'est Jarmusch. Et dès le début, j'étais un peu déçu par tous les films de Jarmusch, sauf que là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très puissant dans cette structure narrative, qui n'est pas nouvelle chez Jarmusch, mais qui est vraiment intéressante. En tout cas, elle a des trois chapitres séparés, avec ce réseau de correspondants. J'ai trouvé que c'était un film très fin, très sensible, très subtil. Et puis les correspondances sont très intéressantes parce qu'il y a cette montre, cette fausse Rolex. Il y a Bob is your uncle, une phrase qui revient toujours, qui veut dire en anglais le tour est joué, je crois. Bob is your uncle, c'est une façon de dire c'est bon, enfin un truc comme ça. Et puis des skaters qui passent comme des anges. Et j'ai trouvé ça assez beau. J'ai trouvé que dans ces correspondances, on pense un petit peu au nouveau roman. Et que je trouve que chez Jarmusch, dans ce film, il y a quelque chose de... Moi, il m'en fait penser à Robert Bresson ou à Alain Cavalier, dans les silences, la gestion des silences. Mais je me suis dit, après, ce qui est passionnant, c'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas, je me suis dit, mais ces trois histoires, en fait, ce sont des énigmes. Et donc, on essaie sans cesse de résoudre l'énigme. Et je me suis dit, à la fin, peut-être le point commun que je vous suggère, c'est que, en fait, ce sont toujours la même histoire, c'est-à-dire, ce sont des parents qui érigent des murs invisibles pour se protéger de leurs enfants. Et c'est ça qui est très étrange, c'est horrible pour ces enfants qui sont face à des parents menteurs, des parents qui ne veulent pas d'eux. Enfin, c'est vraiment fascinant jusqu'au troisième chapitre, je trouve.
Est-ce que tu vas départager tes collègues critiques, Jean-Marc ?
Moi, j'ai l'impression d'être un peu d'accord avec tout le monde, en fait.
Ah, voilà.
Non, c'est vrai qu'il faut dépasser une part de déception et d'ingratitude au début du film. Il y a une scène où Charlotte Rampling explique comment on fait le thé et on débat sur la qualité de l'eau pour faire le thé. Et je pense que ça renvoie vraiment à la façon dont Jarmusch a conçu le film. C'est vraiment un film qui infuse. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit il se passe quand même vraiment pas grand-chose. Mmh. Et au fur et à mesure, le film se remplit et libère vraiment sa saveur. Et moi, alors contrairement à Marie, je trouve que le troisième segment du film est totalement bouleversant. Et tout à coup, le sens général du film m'apparaît. Je comprends que c'est vraiment un film sur l'impossibilité, lorsqu'on est un ex-enfant devenu adulte, d'aimer ses parents lorsqu'ils sont en vie. Et c'est quand même un sujet qui est terrible, qui est tragique, et que tout à coup, on réalise que l'amour des parents jaillit comme on ne l'imaginait pas lorsqu'ils sont morts et que c'est trop tard. Et en cela, tout à coup, lorsque le sujet apparaît, je trouve qu'il est assez dévastateur et que le film gagne en puissance.
Mais des parents menteurs, même ces
absolument,
parents-là.
Absolument. Et malgré tout, la perte est immense, et rien ne peut la remplir, et le film se termine vraiment sur ce gouffre.
Et d'ailleurs, dans ce décor d'appartement vide, qui est vraiment extrêmement beau, oui. Et qui rejoue quelque chose en plus de l'histoire du cinéma, parce que ça renvoie au Dernier Tango à Paris. Tout à coup, on est avec un frère et une sœur assis par terre dans ce vide
comme des
qu'ont laissé les parents.
Voilà. Affalés. Ouais. Et le dernier plan du film, sur, au contraire, une sorte d'entrepôt où sont ramassés tous les objets, est bouleversant aussi. Et ce que fait le film des objets est vraiment très beau, parce que ce qu'il dit, c'est que les objets, c'est presque tout ce mobilier, cette vaisselle, ces vêtements qui sont très très présents dans le film. C'est un peu ce qui rigidifie l'expérience de la vie. On se dit que le film est trop encombré, il y a trop de choses, et les objets tirent le film vers la mort, sauf que à la fin, tout ce qu'il reste d'une vie, ce sont ces objets accumulés, et le film comme ça traverse ce décor d'objets comme un champ de ruines, et finalement, je le trouve très émouvant.
Alors, un objet circule dans le public, c'est un micro, si vous souhaitez participer à cette tribune, et on commence avec Guy. Je n'ai pas fait exprès, je vous promets. Bonjour.
Bonjour. Moi qui suis plutôt un visuel, je me suis régalé à voir toutes ces similitudes dans ces trois histoires. Et il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est les couleurs. On voit ce rouge en permanence. Ça m'a rappelé un film de Todd Haynes qui s'appelle Carole, où il y a du rouge dans tous les plans. Vous n'avez pas parlé des voitures bleues. Il y a trois voitures bleues, etc. Donc c'est pour
on
des
ne peut pas tout
visuels,
dire, Guy.
C'est jouissif.
On vous attendait, Guy, pour les voitures bleues.
Pardon ?
On vous attendait pour les voitures bleues.
Ah non, je ne suis pas amateur d'automobile du tout. Et c'est la couleur qui est très importante. Et puis moi, en tant que cinéphile, j'ai pensé effectivement à Sharon Stone qui est derrière la vitre, comme Charlotte Rampling est derrière la vitre dans Broken Flowers. Voilà. Très joli film.
Après ce film de famille de Jarmusch, on continue avec Sound of Falling, le titre français étant Les échos du passé. Il s'agit du deuxième long-métrage de la cinéaste allemande Masha Chilinsky. Deuxième long-métrage et déjà lauréat du prix du jury à Cannes, ex aequo avec Sirat d'Oliver Lackshay. Unité de lieu et multiplicité des temps dans ce film, puisqu'il se déroule dans une même ferme de l'Allemagne du Nord, à quatre époques différentes, sur près d'un siècle. On passe d'une époque à l'autre quasiment sans transition, parfois grâce au son. On s'y retrouve avec les costumes et les personnages qu'on identifie peu à peu. On suit, on quitte et retrouve alternativement quatre jeunes femmes, dont une petite fille. Le film épouse et entrelace leurs regards. Si la maison dans laquelle elles vivent se transforme, des morts brutales et des secrets se font écho dans les vies de chacune. C'est finalement un siècle de conditions féminines racontées en 2h30. Marie.
Alors, il faut que j'en parle bien parce que c'est vraiment un de mes grands films de l'année, je tiens à le dire.
Nous sommes le 18 janvier.
Voilà. Et là, donc, tu disais que le film à Cannes s'appelait Sound of Falling. Alors, effectivement, en allemand, il s'appelle In die Sonne schauen, qui est regarder dans le soleil. Et il aurait pu s'appeler Les jeunes filles et la mort. Alors, un programme un petit peu impressionnant pour vraiment la révélation d'une cinéaste. Alors, je ne sais pas si, comme moi, de temps en temps, vous vous arrêtez sur les titres d'articles scientifiques. Et il y en avait un qui m'avait absolument fait rêver, c'était très récemment où la physique quantique se demandait si l'espace-temps avait une mémoire, voire était une mémoire. Et tout à coup, j'ai l'impression que j'ai son équivalent cinématographique, son équivalent filmique, avec vraiment des outils de cinéma, c'est-à-dire une mise en scène d'une poésie quantique qui mélange les époques, un travail sur le son qui est absolument fascinant, et un film qui m'a parlé, qui m'a hanté depuis des mois. Je n'arrête pas d'y penser, j'ai des visions avec voilà, tous les moyens du cinéma et une grande liberté, des regards caméra qui vous foudroient sur place, avec une caméra subjective dont on se demande un peu toujours quel fantôme regarde à travers les trous de serrure, avec une caméra qui passe d'une pièce à l'autre et qui change d'époque. Et je me dis, nom d'une pipe, cette fille-là, avec le budget cantine de Christopher Nolan, elle fait un grand film qui résonne très profondément, et on transporte des mois durant des images comme ça, et sur effectivement ce continuum féminin, qui est un continuum de douleur, mais pas que, qui est aussi un film de désir, un film d'évasion, avec le thème de la photo qui revient constamment, des photos post-mortem, mais aussi, ce qui est pour moi vraiment quelque chose de, peut-être je ne verrai pas plus beau au cinéma cette année, une jeune fille au début des années 80, dans la cour de la ferme, on l'a fait poser pour une photo de famille, décidément c'est le thème de la soirée, et il s'agit de prendre un Polaroid. Et voilà, la proximité d'un personnage fait que vraiment elle ne peut pas rester sur place et qu'elle va devoir s'échapper, s'évader et devenir pour toujours une ombre, un fantôme sur un polar. Ben, c'est renversant, quoi.
Tu as été renversé, Christophe ?
Alors, c'est sûrement très quantique, hein, mais je n'ai rien compris.
Tu n'as pas fait d'effort.
Mets-y un peu sans histoire, sans histoire. Alors, c'était tellement incompréhensible pour moi que j'ai dû lire des journaux après pour comprendre de quoi parlait le film. C'est quand même embêtant quand vous sortez de 2h30 et que vous ne savez pas de quoi ça parle. Donc, j'ai lu plusieurs articles sur le film.
Est-ce
j'ai
que depuis, tu as compris ?
Il y a des femmes qui se suicident dans une rivière à l'approche de l'Armée rouge. Alors que j'ai vu des femmes rentrer dans l'eau, mais alors l'approche de l'Armée rouge, j'ai pas vu l'Armée rouge. J'ai découvert que ça se passe dans le même décor. J'avais pas remarqué parce que le décor est assez insignifiant.
Mais tu as le droit de dire si tu as un peu dormi.
Et alors, il paraît.
C'est pas grave, personne ne te juge.
Non, mais bien entendu. Mais il paraît qu'une petite fille comprend qu'elle remplace sa sœur décédée qui portait le même nom qu'elle. Alors là, je suis désolé. Il y a une petite fille blonde qui ressemble à une petite fille blonde qui est sur une photo.
C'est une ligne de dialogue du film.
Peut-être que j'ai dormi à ce moment-là, mais je peux pas vous dire.
Tu as des journaux.
C'est au début, je tiens à le dire.
Elle s'appelle Alma, comme moi. Non, mais oui, tu as le même prénom.
Une lenteur d'un ennui. Puis alors, le problème, c'est que moi, je veux bien l'histoire des femmes, d'accord, mais dans le désordre. Alors, si c'est dans le désordre, je comprends plus rien, moi. Je veux dire, si c'est un coup là, aujourd'hui,
parce que l'idée,
18e siècle,
c'est toute l'idée. C'est que les douleurs se transmettent et que ça forme effectivement une sorte de continuum. On est hanté par le passé, par l'avenir, et que tout ça se répond et se répond par des outils de cinéma, par du style.
C'est ta vision. Moi, je dirais que pour moi, c'est comme une série de films de famille, vous savez, des films vidéo. Ou Super 8 de famille, mais d'une famille qui n'est pas la vôtre. Et donc, vous regardez les photos, vous dites, oui, bon, bah, là, ils sourient, et puis là, ils vont se baigner. Vous voyez, c'est ce que j'ai vécu.
Une famille où tout le monde sait faire un cadre, composer une image, enfin, une famille où tout le monde est un peu Bergman, quand même.
Une famille qui se la joue un petit peu avec des photos de famille un peu bizarroïdes, je vous l'accorde. Mais cela dit, c'est très beau plastiquement, avec une magnifique couleur sépia.
Jean-Marc.
Alors moi, ce que j'aime dans le film, c'est précisément ce que Christophe n'aime pas, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que si on remettait tout dans l'ordre, le film serait presque un peu plombé et un peu explicatif, parce qu'il construit un destin féminin. Et je pense que ce qui rend le film mystérieux, envoûtant, fascinant, c'est d'une part cette construction en mosaïque, que tous les liens soient relâchés, que le récit soit extrêmement lacunaire, troué, et ça construit quelque chose qui va au-delà du scénario et qui vraiment touche au mystère du monde et même à la pratique du cinéma comme métapsychose. C'est-à-dire qu'on a rarement le sentiment de voir des âmes en train de migrer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très beau sur les regards dans le film. Beaucoup de plans sont surcadrés, on voit beaucoup de choses à travers une serrure, à travers une fenêtre, à travers une porte. Et soudainement, alors qu'on observe, nous, dans la position du voyeur, les personnages se retournent et regardent la caméra comme s'ils se savaient vus. Il y a une espèce de jeu d'affrontement et de tension des regards qui est extrêmement puissant. Et parfois, les gens se retournent sur quelqu'un, mais parfois simplement sur nous, comme si on était à la place vraiment de ces fantômes et de ces âmes qui migrent. Et ça, c'est vraiment très fort. Et le film s'ouvre sur quelque chose d'immense, et grâce précisément à cet art du mystère.
Florence.
Alors, pour continuer l'explication sur la petite fille et sa photo, la petite fille morte, la petite fille qui pense qu'elle est la réincarnation d'une petite fille morte, justement, comme ce dont parlait Jean-Marc, il y a cette question de la migration des âmes, il y a cette très belle utilisation des photos qu'on faisait au 19e siècle, au début du 20e siècle, des morts, des photos mises en scène. Et donc, la petite fille en question, la petite Alma qui est morte, on l'a posée sur un divan, très joliment habillée, avec son visage encore tout à fait comme endormi. Et il y a une mise en scène autour de cette photo qui est là pour nous dire à la fois la fausseté du rapport de cette famille, enfin des familles qui défilent dans cette maison à la vie, la mise en scène, le travestissement de la vérité, et en même temps l'horreur, la crudité de ce qui se passe, c'est-à-dire la mort de cet enfant. Et je pense que là, il y a ce qu'il y a de plus beau dans le film, et pour moi c'est la naissance d'un très grand talent, Masha Chilinsky, à l'évidence, je pense qu'il faut retenir ce nom, c'est qu'elle nous immerge dans des sensations, dans des fragments comme ça, émotionnels et sensoriels, et le film est d'une très grande beauté visuelle, qui sont liés à l'enfance et au monde des morts. Et il y a un moment aussi, toujours avec cette Alma, où elle joue à cache-cache avec ses frères et sœurs, elle se cache dans un arbre, et quand elle les appelle, ils font comme s'ils ne l'entendaient pas, donc elle se demande si elle n'est pas morte. Tous ces moments-là très gothiques sont magnifiques. Pour moi, le film pêche quand il renoue un peu tous ces fils narratifs qui sont assez faciles à suivre les uns et les autres, quand on ne s'endort pas.
Écoute, alors là, vraiment, tu me feras un mémoire.
Il y a un moment donc, dans la deuxième partie où tous les fils se rejoignent et il y a des tragédies dans chaque partie. Et il y a quand même un moment où on enchaîne une mutilation, un inceste, des tentatives de suicide. Enfin, on est accablé.
Mais c'est sur un siècle. C'est sur un siècle. Et c'est aussi sur les secrets de famille et pourquoi certains drames se répètent. Et donc.
Oui, mais il y a aussi un effet d'accumulation.
C'est pas tout le même jour.
C'est pas le même jour, mais c'est la même heure de la vie du spectateur, quand même. Hein,
c'est les mêmes 2h30.
J'ai pas compris pourquoi il coupe la jambe d'un pauvre garçon pour l'empêcher d'aller à la guerre. C'est bizarroïde.
Donc le fait qu'on ait à un moment cette juxtaposition, enfin cette accumulation de tragédies, pour moi, ça produit un effet un peu à la Michael Haneke, un peu un effet punitif quand même, d'accablement.
Mais le mystère résiste à la révélation de tous les secrets.
Et c'est le grand talent de la cinéaste, c'est qu'il y a cette poésie quand même surgit du film. Mais je trouve, enfin moi, ma réserve, c'est ça, c'est qu'il y a un moment où on est quand même sonné.
Restez les yeux ouverts. Est-ce que quelqu'un souhaite participer au débat consacré aux échos du passé de Masha Chilinsky? Non, on continue donc en changeant radicalement de registre avec Anaconda, de l'américain. J'ai un peu fait exprès pour le plaisir du contraste. Anaconda, donc, de l'américain Tom Gormican. Au commencement était Anaconda, nanar culte, sorti au siècle dernier, 1997 précisément, notamment avec John Voight, Jennifer Lopez et Ice Cube. L'Anaconda 2026 n'est pas un remake, mais l'histoire de deux femmes de ce film originel, qui vivotent tant bien que mal dans le milieu du cinéma, et qui, la quarantaine venue, décident de concrétiser enfin leur rêve, réaliser un remake d'Anaconda. Les deux ozos embarquent caméra et une équipe de bras cassés dans la jungle amazonienne pour commencer le tournage, à très 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 petit budget. Leur Anaconda, qui comme son titre l'indique, nécessite un Anaconda, et c'est l'Aquelos. Le duo des deux ozos est assuré par Jack Black et Paul Rudd. Florence.
Et alors, film culte, Anaconda de 1997,
tu dis? Oui, nanar culte.
Pour moi, c'est une vraie question. Est-ce que quelqu'un connaissait Anaconda de 1997? Je pense que tout le pari de ce film, c'est qu'il faut l'avoir, au moins en avoir entendu parler, peut-être même l'avoir vu, pour apprécier l'ironie qu'il y a à vouloir refaire Anaconda. Donc déjà, on part avec un gros handicap de départ. Et ensuite, ça ne s'améliore pas du tout, puisque... c'est vraiment un film accablant, cet accablement qu'on ressent quand quelqu'un essaie de vous faire rire et n'y arrive pas. C'est dur, quoi. Et c'est vraiment tout le film, parce qu'il n'y a pas une scène drôle du tout. Alors, au tout début, il y a Jack Black qui fait une sorte de musique avec sa bouche. Enfin, je ne vais pas vous le faire, mais il fait des rythmes.
Ah si, fais-le nous.
Je sais pas. Du beatbox, donc.
Mais donc, Jack Black, ça nous rappelle qu'il avait joué dans Rock Academy de Richard Linklater, qui était un film très drôle, et que Jack Black, à un moment, c'était un vrai talent du cinéma. Comique américain dont le cinéma n'a plus rien fait, ou alors c'est lui qui ne veut plus, je ne sais pas, mais en tout cas il se retrouve dans cette aventure quand même assez pénible.
Christophe.
Il y a une métampsychose quantique, je pense. Moi, ça m'a beaucoup troublé, ça m'a parlé profondément. Non, mais c'est-à-dire que tout à l'heure, l'un des correspondants du Masque disait, mais il faut juger les films en fonction de leur genre. Et c'est vrai que là, si on compare ça à Jim Jarmusch, évidemment, c'est le pire navet de la galaxie, mais en réalité, c'est un film de genre. Donc, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est un produit calibré, c'est un film loufoque, on dit déjanté, c'est le mot à la mode, c'est un film pour ados. Et donc, ce film pour ados, c'est avec de l'humour potable, série Z. Moi, je trouve que dans le genre, c'est plutôt bien fait. Alors, c'est vrai, je dois dire que je l'ai vu dans une salle qui était justement remplie d'ados. Et bizarrement, j'étais le seul à rire. Donc, il y a peut-être quelque chose qui m'a un peu troublé. Enfin, je ne sais pas, je n'irai pas plus.
En tout cas,
c'est
Anaconda
le seul vrai ado.
C'est vrai que les comédiens sont...
Anaconda a su réveiller l'ado qui est en toi.
Peut-être que l'ado en moi s'est réveillé. Alors, c'est vrai que j'ai bien aimé Paul Rudd, qui joue le rôle d'un acteur ringard avec un cure-dent. Moi, j'ai trouvé très drôle, personnellement, qui m'a fait rire. C'est vrai que Jack Black, c'est quand même une grande personnalité. Et puis alors, il y a une espèce de correspondance secrète avec un film de Michel Gondry, Soyez sympa, Rembobiné, le titre était formidable aussi, où il y avait déjà Jack Black, et déjà il s'agissait de revivre un film ou de retourner des films, et c'est justement l'objet de ce film Anaconda. Et je ferai juste une petite remarque, c'est que Tom Gormican, il est aussi un adepte de cette mise en abîme quantique, hein, bien sûr, puisqu'il avait fait un film qui s'appelait Les Talents Normatifs avec Nicolas Cage en acteur ringard, etc. Donc voilà, il faut le prendre pour ce que c'est.
Jean-Marc.
Oui, moi, le film m'a pas tellement fait rire, mais il m'a un peu attendri, en fait. Je le trouve débile, mais gentiment débile, chaleureusement débile.
C'est pas rien.
Une sorte d'attachement à ces acteurs-là, que moi, j'ai toujours beaucoup aimé. J'adore Paul Rudd. C'est assez émouvant de le voir à cet âge-là de sa vie, un peu fatigué, mais toujours aussi touchant, émouvant. Et comme toi, Christophe, j'ai beaucoup pensé au film de Gondry. C'est une sorte de variation du film de Gondry, qui était une espèce d'apologie de la série Z et des pouvoirs poétiques de la série Z, où là, on voulait refaire toute l'histoire du cinéma vraiment en film do it yourself, fait avec trois fois rien. C'est ce que tente de faire le film. Et ce que disait le film de Gondry, et ce que dit Anaconda aussi, c'est que on peut faire n'importe quoi d'une certaine façon. Une des beautés du cinéma, c'est qu'on le fait ensemble, qu'on s'amuse ensemble. Et même si le film est un navet, il y a un truc de partage, de quelque chose de récréatif dans l'activité du cinéma qui rend le film vraiment touchant, je trouve.
Marie.
Mais bien sûr qu'ils sont très sympathiques, et j'ai toujours bien aimé Jack Black, et il a des sourcils très expressifs, et c'est rare par les temps qui courent à Hollywood. Mon souci, c'est que le film est à cheval sur tellement de choses qu'il finit par tomber de cheval. La crise existentielle de la cinquantaine, mais ça c'est pile pour
40,
moi.
40.
Depuis le temps qu'ils ont 40, Jack Black, il a bien 50, crois-moi. Et donc, la crise existentielle de Jack Black, qui est un gars qui dit, ma vie, ouais, je la note B, B+, enfin voilà, cette espèce d'insatisfaction au moment du bilan, mais c'est pile pour moi, j'adhère, sauf que ils en font rien du tout. La comédie méta, elle est complètement ratée, elle était plus réussie dans le précédent, tu as raison Christophe, avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. Et le film d'horreur à grosse bête. Et alors là, il faut qu'on s'arrête deux minutes, parce que la grosse bébête qui monte, alors on sait très bien que la seule grosse bête qui fait peur dans la jungle, c'est Klaus Kinski, mais là, cette anaconda, ce gros serpent, etc., qui est vilain, qui est moche et tout, ça m'a obligée à revoir celui de 97 pour voir à quoi ça ressemblait.
T'es vraiment consciente.
Ouais, je suis folle. Qui se prenait hyper au sérieux, qui était archi premier degré, mais qui, du coup, est presque plus touchant, qui n'a pas cette espèce de faux cool, parce que il y avait une sincérité cinéphile chez Gondry dans le désir de suéder les films et dans la liberté du bricolage, qu'il n'y a pas du tout ici. Je pense que c'est vraiment une espèce de calcul commercial un peu misérable. Et je me dis, bah dis donc, malgré tout, leur jungle, ça ressemble à un jardin botanique, leur bateau sur l'Amazone, ça ressemble à un séjour all-inclusive à Cancun, on se fiche de moi.
Après Anaconda, on va maintenant parler de Ma Frère, deuxième long-métrage d'un duo de jeunes cinéastes, Lise Akoka et Roman Guéret. Ma Frère, c'est comme ça qu'elles s'appellent, entre elles, Shai et Djeneba. Elles ont la vingtaine, ont grandi ensemble entre les tours d'un quartier populaire à l'est de Paris et se retrouvent animatrices de colonies de vacances l'été. Les voilà donc parties en car, sous le soleil de la Drôme, avec des collègues, une directrice, incarnée par Amel Bent, et surtout une vingtaine de mômes truculents entre 7 et 13 ans. Le temps du séjour, il sera question d'amour, de religion, de sexualité, de maternité, d'émancipation, racontée à travers deux jeunes femmes qui quittent l'enfance, Shai et Djeneba, et une ribambelle de gamins qui sont les deux pieds dans l'enfance. Les interprètes de Djeneba et Shai s'appellent Fanta Kebe et Shirelle Nataf. Elles avaient déjà joué pour Roman Guéret et Lisa Coca dans le cadre d'une web-série pour Arte. Et comme son titre l'indique, Ma Frère, c'est aussi une langue et des réparties d'aujourd'hui. Jean-Marc.
Oui, absolument. C'est vraiment ça qui fait la force du film. Le film, il est vraiment très sympathique et très séduisant, alors qu'il a plein de petits défauts. Il y a à la fois une décision du feel good qui est presque un peu pesante. Enfin, il y a vraiment un parti pris de bonne humeur, d'aplanissement de tous les conflits, une dose de bons sentiments qui est peut-être excessive. Et en même temps, il y a deux choses très fortes dans le film. D'une part, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire que la manière dont la langue française aujourd'hui, les générations s'en emparent et en font quelque chose d'extrêmement créatif. J'ai rarement éprouvé récemment au cinéma un tel plaisir à l'écoute de dialogue. Et le plaisir que procure le film peut être celui qu'on peut éprouver aussi en écoutant du rap français. Je me disais que c'est un peu comme écouter un album de Théodora. Le langage est vraiment en train d'inventer des choses et c'est extrêmement réjouissant. Et l'autre chose très réussie dans le film pour moi, c'est le casting des enfants. C'est-à-dire que souvent, les enfants au cinéma, on les choisit pour qu'ils soient mignons et séduisants. Et là, il y a vraiment une très grande disparité des corps. Certains qui sont en surpoids, certains qui sont vraiment très renfrognés. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas normatif dans la façon dont ils sont pourtant très attachants, très mignons, mais pas de manière stéréotypée, qui rappelle un peu l'argent de poche de Truffaut. L'enfance y est montrée comme une altérité, comme quelque chose qu'un adulte ne peut pas vraiment comprendre, et ça c'est quand même vraiment assez beau dans le film.
Christophe.
Moi, j'ai trouvé que, si vous voulez, a priori, c'est encore un film cadeau de gauche sur les jeunes des banlieues, ils sont tellement géniaux, etc. Mais en fait, il y a un petit plus qui, là, me pose peut-être un peu question. C'est le fait que Lisa Coca et Roman Guéret, avant d'être réalisatrices, elles sont coach pour enfants. C'est-à-dire que quand vous êtes réalisateur, vous faites tourner des enfants dans un film, elles viennent. Et elles viennent sur le tournage pour, en quelque sorte, débloquer les enfants, faire en sorte que les enfants jouent la scène. Et donc, en fait, le film est fait avec des techniques qui sont les leurs. Et en fait, le film a été largement tourné à l'oreillette. C'est-à-dire les enfants ayant
ça,
une oreillette dans l'oreille.
Mais ça, tu l'as lu, mais est-ce que tu l'as vu comme spectateur?
Je ne l'ai pas vu comme spectateur, mais si, je l'ai vu. Pourquoi? Parce que, en réalité, la parole des enfants n'est pas la parole spontanée des jeunes des quartiers, mais la parole de Lisa Coca et Romane Guéret. Et donc, ça fait une reconstruction un peu néo-folklorique, on pourrait dire, du parler des banlieues. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un moment, ils sont en train de se promener dans la Drôme, et puis ils voient des naturistes. Et donc, il y a une réplique d'un enfant qui d'ailleurs est très, très sympathique et très drôle. Ah, les Français, ils sont quand même décontractés. Vous voyez, bon, c'est une réplique assez drôle, sauf qu'elle n'est pas de l'enfant. Elle est évidemment de Lisa Coquet et Romane Guéret. Comme vous le savez, les enfants sont de très bons perroquets. Et donc, si vous voulez, c'est la seule question qui me gêne un petit peu là-dedans.
Dans la plupart des films, les dialogues sont écrits, ne proviennent pas des acteurs.
Les dialogues sont écrits, mais il ne faut pas dire que c'est le reflet d'un nouveau parler populaire, parce qu'en réalité, c'est le parler de Lisa Coquet et Romane Guéret qui ont voulu, un peu comme Jacques Martin, faire que les enfants soient formidables.
Alors, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une méthode de travail qui a consisté à assister à une vraie colonie de vacances, oui, à avoir des centaines d'heures de rush et à retranscrire des choses en dialogue, ce qui est une méthode qui n'est pas sans évoquer celle de Sophie Le Tourneur, que je cite dès que je peux, parce que je l'adore.
Qui travaille aussi à l'oreillette.
Qui travaille aussi à l'oreillette, en ayant retranscrit les dialogues vrais de sa vie, et elle en fait du cinéma, et elle a fait un film de colo, Sophie Le Tourneur, il y a une quinzaine d'années peut-être, qui s'appelait Rock et Canyon, un moyen métrage, je vous le conseille, il est absolument génial. Moi je rejoins Jean-Marc sur le plaisir absolu qu'il y a à partir en vacances avec ses mômes, même si c'est vrai que j'avais préféré Les Pires, que je trouvais peut-être un peu
leur long métrage précédent.
Leur long métrage précédent, qui était l'histoire d'un tournage de cinéma et de comment on fait travailler des enfants sur un film de cinéma, et qui était peut-être un peu plus âpre, disons un peu moins formaté. Il y a là, de temps en temps, des moments où je me dis, ah bah, voilà, il fallait qu'il y ait un peu le poids du social, il fallait qu'il y ait un peu des choses comme ça, un peu calibrées, un peu peut-être plus commerciales. En même temps, il y a un vrai régal. Et moi, j'ai un coup de foudre pour les deux copines, pour les deux sœurs, qui sont tellement vivantes, qui sont tellement drôles, et même si je trouve que pas, voilà, c'est un peu artificiel leur brouille, par exemple, mais leur langue et j'allais dire leur côté cache me paraît tellement emballant que j'ai passé un bon moment dans la Drôme.
Est-ce que c'est ton cas, Florence ? Est-ce que t'as boudé ton plaisir ou pas ?
En fait, je suis assez partagée sur ce film parce que j'aime beaucoup le travail sur la langue, j'aime beaucoup de choses dans le film, j'aime beaucoup aussi ce regard sur l'enfance qui est un vrai regard. Ce qui est assez rare, c'est-à-dire que dans tous ces enfants, on n'a pas des types, on a vraiment des personnages qui se dessinent et qui ont une complexité. Et il y a quelque chose de très beau dans la démarche. Donc, j'ai pas du tout envie de casser le film a priori, mais j'ai été gênée par quelque chose d'ailleurs qui m'a fait penser à L'Argent de poche et je me suis dit qu'il faudrait peut-être le revoir. C'est-à-dire ce degré de mise en scène, en effet. De ce que peuvent vivre les enfants. Alors, avec la colonie de vacances, en plus, on a énormément de scènes attendues, qui sont l'excursion, la baignade, le premier baiser.
Et moi, les attend d'une certaine façon.
On les attend. Et alors, j'ai été gênée par cette scène du premier baiser, qui est dans un contexte, en plus, où donc c'est un petit garçon qui n'est pas tellement séduit par la fille qui veut l'embrasser et qui se sent un peu forcé. Il y a une pression du groupe. Ensuite, il en est un peu question. Entre les moniteurs le soir dans leurs réunions, qui ce sont des moments, des belles scènes qui durent pas assez longtemps à mon goût, où les gens débriefent un peu ce qui s'est passé dans la journée. Bref, cette scène est très mise en scène parce que c'est un moment qui est mis en scène par les autres enfants. On les presse pour qu'ils s'embrassent. C'est filmé en hyper gros plan. Je suis gênée par ce moment. Je me demande, du coup, ça me sort du film. Je me demande comment les enfants qui jouent dans le film l'ont vécu. Est-ce que vraiment ça devrait être une scène qu'on est en train de regarder ? Enfin, je suis pas sûre, quoi. Je pense qu'on est dans une période aussi. On a beaucoup questionné comment. On peut sexualiser les enfants à l'écran, leur place sur les tournages, c'est quelque chose que Judith Godrèche a beaucoup soulevé. Je suis pas à l'aise avec ce que le film me propose là-dessus. Et à vrai dire, j'aime beaucoup en effet ce tandem de jeunes filles qui sont les deux monitrices, qui sont un peu le centre de l'histoire. Et moi, ça me dérangerait pas de passer plus de temps de leur côté plutôt que d'être dans ces petits moments où c'est à la fois pour nous faire rire, cette espèce d'histoire d'amour, mais aussi un peu dérangeante. Je sais pas très bien ce que le film cherche à faire à ce moment-là. Et vraiment, j'ai ressenti une gêne.
On enchaîne et on termine même avec un western intitulé Pile ou face, du duo de cinéastes, encore un duo, mais ils sont italiens cette fois, à savoir Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis. Nous sommes dans l'Italie de la fin du 19e siècle. Celle qui est divisée et qui construit des chemins de fer, Buffalo Bill, prototype du cow-boy sanguinaire, y étant tourné avec son spectacle, la jeune Rosa, Nadia Tereskiewicz à l'écran, et son vieux colonel de Marie y assistent. À l'issue de la représentation, le dit Marie est tué, dans des circonstances que je ne préciserai pas, et que vous ne préciserez pas non plus, chers collègues. Rosa et Santino, un jeune vacher italien doué pour le rodéo, s'enfuient. Leur tête est mise à prix, et Buffalo Bill part à leur trousse. C'est le deuxième western de ce duo de cinéastes qui questionne les codes du genre, le héros étant ici une femme, Nadia Tereskiewicz, je l'ai dit. Alessandro Borghi et son amant, Santino, et John C. Reilly jouent Buffalo Bill. Marie.
Eh ben, j'aime beaucoup l'idée, et pas tellement le film. J'aime l'idée de ramener le western spaghetti à la maison et de dire on va confronter le western à la géographie italienne, à la ville. Donc on est en 1890, et là je me dis mais ça va être absolument merveilleux de changer complètement de paysage et de, je sais pas, d'emmener Buffalo Bill dîner à la trattoria, de le voir manger des spaghettis. Moi j'étais partie pour les clichés à fond, et il se trouve que le film caresse beaucoup de genres, caresse beaucoup de références, et caresse pas beaucoup ces personnages, qui sont pas très intéressants et qui restent un petit peu comme ça, à l'idée de point de départ, voilà. Donc la fille qui fait ci, le gars qui fait ça, et puis ils se confrontent pas tellement à l'Italie, ils ramènent un peu la Révolution, mais si on connaît pas trop l'histoire italienne, la réunification de l'Italie, les tensions sociales, etc., c'est un peu flottant, alors... On dira que c'est des tensions universelles, et après tout, on peut s'imaginer qu'on est dans l'Ouest américain. Mais il y avait cette belle idée, je trouve, de raconter la naissance du rêve américain. Buffalo Bill raconte des bobards, il raconte voilà les mystères de l'Ouest, et venez voir comme il est beau mon pays.
Et le rêve américain.
Et le rêve américain, absolument. Et puis de regarder ça... avec des plans larges, avec des collines, avec... Alors, dès qu'ils font ça, dès qu'on voit, effectivement, les collines italiennes, le coucher de soleil, une nature totalement différente d'un petit pays par rapport aux États-Unis, c'est assez beau. Malheureusement, la mise en scène, elle est très étriquée. On est beaucoup sur les visages, on est beaucoup sur les personnages, c'est un peu petit bras. Et tout le film, je me disais, mais... Bon sang de bois, donnez-moi des plans larges, parce qu'on a faim de ça. Et peut-être ça n'a pas été possible pour des questions de budget, j'en sais rien. Mais de fait, je trouve le film un peu rikiki, un peu étriqué sur des idées de perso et traversé par quelques plans intéressants.
Christophe.
Je trouve que c'était extrêmement périlleux de vouloir faire ce genre de film, ces espèces de films de genre, ce genre de western, parce que pour moi, mais c'est peut-être mon goût personnel, le western appelle la tragédie. C'est-à-dire que ce qui fait la force des grands westerns américains, c'est le côté de personnages de tragédie grecque. Et même dans Le Bon, la Brute et le Truand, on retrouvait chez les Italiens ce côté encore de personnages tragiques, comme ça, extrêmement sombres. Et c'est très difficile de vouloir faire un western comique. Et en fait, c'est ce qu'ont voulu faire les deux cinéastes, une sorte de western politique, mais souriant, comique, caricature de western. À l'arrivée, ça donne une espèce de western yougoslave. Vous savez qu'il y avait pire que les westerns italiens dans les années, au siècle dernier. Je dis ça pour les plus jeunes. Il y avait aussi les westerns yougoslaves, qui étaient vraiment, alors là, le top du top. Et donc, ça fait un peu penser à ces westerns yougoslaves. Moi, ça me fait penser un peu à une BD, mais une BD un peu mollassonne. Alors, je vois bien qu'il y a un propos politique un peu sous-jacent qui se traîne là-dedans, qui est assez intéressant. On pense un peu à Touche pas à la femme blanche de Marco Ferreri, qui était un western très ancien qui avait été tourné dans
avec
le
Michel
Oudéa
Piccoli
à Paris.
En Buffalo Bill.
Absolument, on pense un peu à ça. On pense aussi par moment à un autre film très très ancien, c'est Vendès de Jean-Luc Godard, où il y avait des scènes de western comme ça, un peu caricaturales. Mais vraiment, on voit bien qu'il y a une volonté de message politique, mais on le cherche, le message politique, et c'est peut-être ça qui m'a le plus déçu.
En tout cas, mettre un personnage féminin comme personnage principal d'un western, c'est aussi un message politique. Florence ?
Oui, moi, ce personnage féminin m'a plu. Elle m'a rappelé Nadia Tereskiewicz, qui est formidable, je trouve, qui existe beaucoup à l'écran. Elle m'a rappelé Julie Christie dans McCabe et Mrs. Miller de Robert Altman, qui a les mêmes cheveux frisés. Je pense que c'est un petit clin d'œil des cinéastes. Je trouve que ce film a du charme. Alors, il est bancal. La deuxième partie, pour moi, ne fonctionne pas quand ça part vraiment dans un côté surréaliste. Mais la première partie où on suit Buffalo Bill, dans son récit totalement fantasmatique, on comprend bien qu'il affabule complètement, et où ensuite, c'est comme si son spectacle avec lequel il tourne en Italie franchit la scène et que ça envahit l'écran et ça emporte les personnages qui étaient des spectateurs dans cet univers-là, et cette femme qui s'ennuyait clairement, qui était une sorte de Madame Bovary, se retrouve un peu dans son fantasme de western. Ça a du charme, c'est assez beau esthétiquement. Il me semble pas que le film regarde tellement du côté du western spaghetti, bizarrement, alors que on s'attendrait à ça. Ça part dans des marécages, c'est boueux. C'est vraiment plutôt ce côté Altman des années 70 pour moi. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu y voir et c'est ce qui m'a plu dans le film.
Et toi, qu'est-ce que t'as vu, Jean-Marc ?
J'ai vu moi aussi Altman, c'est-à-dire qu'on pense vraiment beaucoup à Buffalo Bill et les Indiens, qui a vraiment le même sujet, c'est-à-dire comment on édifie une légende qui va se superposer et même se substituer à l'histoire et tenter de l'effacer. Sauf que le film d'Altman est d'une férocité politique, d'une force. Il le fait au milieu des années 70, à la fin de la guerre du Vietnam. Ça avait vraiment une vigueur qu'il n'y a pas là. Et Dieu sait pourtant qu'il y aurait aujourd'hui, dans la séquence politique qu'on vit, des choses à dire sur l'impérialisme américain, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon outil. Et je trouve que toute la piste Buffalo Bill, elle est vraiment pas opérante. On a le sentiment de l'avoir déjà vu en mieux, notamment surtout chez Altman. Donc c'est plutôt la vanne effectivement féministe, Nadia Tereskevich, qui est ce qu'apporte le film d'un peu nouveau, même s'il y a déjà eu de très beaux westerns avec des personnages féminins très forts, je pense à Johnny Guitar évidemment, mais il y a quelque chose dans cette émancipation qui est la nouveauté du film. Je trouve que Nadia Tereskevich, qui est vraiment une grande actrice et qui a une présence très forte à l'écran, elle est quand même un peu desservie par un personnage qui est écrit de façon trop superficielle.
Ah oui.
Et qu'il y a des effets de court-circuit dans le film. Il chasse vraiment trop de lièvres à la fois, il s'interrompt, on a un peu l'impression que le récit cale tout le temps et peine à redémarrer, et que le film ne s'est pas trouvé au montage, qu'il piétine beaucoup. Voilà.
Est-ce que quelqu'un souhaite participer à cette tribune consacrée à Pile ou Face de Matteo Zappis et Alessio Rigo d'Erighi ? Oui.
Si je puis me permettre, l'aspect politique, il est à relier beaucoup avec l'histoire de l'Italie, l'histoire politique de l'Italie. Et je crois qu'il y a un pont à faire avec l'histoire du cinéma. Il y a une scène qui a beaucoup choqué les ados, ici. C'est celle d'un accouchement. Mais je crois que le film raconte comment on peut faire venir au monde le récit de la naissance d'une nation. Et ça, c'est et politique et cinématographique. Ouais.
Merci pour votre intervention. Quelqu'un d'autre concernant Pile ou Face ? Alors, virgule. Et pour leur place à vos coups de cœur, on commence avec toi, Florence.
Alors, je voudrais parler d'un film de Victor Hérissé qui s'appelle Le Sud, qui ressort en salle. Et il faut absolument aller voir ce magnifique film de 1983 en salle pour la splendeur visuelle absolue, comme tous les films de Victor Hérissé qui en a réalisé peu. C'est magnifique. C'est un film qui a une histoire tourmentée puisque le producteur avait retiré les fonds aux deux tiers du tournage. Et c'est Gilles Jacob, à l'époque, qui a sauvé ce film en proposant au cinéaste d'en faire un montage et en le montrant à Cannes. Et donc, ce n'est pas le film qui était le scénario que projetait Victor Hérissé. Et c'est une splendeur, un film sur la relation entre un père et une fille, sur plutôt ce père dans le regard d'une petite fille et comment elle va perdre ou en tout cas altérer sa vision de son père. Et c'est donc l'histoire de la perte d'une innocence et en même temps d'une réalité de l'Espagne très marquée par le franquisme. Tout ça qui apparaît dans un film faussement intimiste et en fait avec une immense amplitude narrative.
Le Sud de Victor Hérissé qui ressort en salle. Donc, Marie.
Alors, moi, c'est moins un coup de cœur qu'une joie officielle, puisque je voulais parler du 28e Festival Cinéma de Télérama.
Tiens donc. Mais où travailles-tu ?
Ce serait pas à Télérama. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais être franche, hein, si on fait une boum, faut inviter les gens. Voilà, parce que sinon, on va être tout seul avec nos films, ce serait quand même très embêtant. Donc, du 21 au 27 janvier, mine de rien, dans toute la France, parce que c'est plus de 500 salles du réseau AFKE, donc des cinémas d'art et essai, 4 euros la séance. Que dire de plus ? Je pourrais m'arrêter là. Mais ce serait dommage de ne pas vous dire que c'est les films préférés de Télérama dans l'année, donc l'occasion de revoir ou de voir L'Agent secret, Une bataille après l'autre, Valeurs sentimentales, Un simple accident, mais aussi des films qui ont eu peut-être moins d'écho. Je pense à Black Dog de Gwan Hu ou Amour, qui était un des volets de la trilogie d'Oslo sortie cet été. Et il y a aussi des avant-premières, À pied d'œuvre de Valérie Donzelli, The Mastermind de Kelly Reichardt, Baisenville de Martin Jova. Voilà, donc le programme est merveilleux, 21-27 janvier, 4 euros la séance.
Dans 500 salles.
Plus de 500 salles dans toute du la réseau France. AFKE, cinéma d'art et essai.
Christophe.
Moi, c'est la ressortie en salle d'un film que j'avais trouvé très très beau quand il était sorti en 1990, qui s'appelle L'échelle de Jacob, d'Adrian Lyne. Alors, Adrian Lyne, c'est un drôle de personnage parce que il est plutôt connu pour des films un peu sulfureux, voire érotiques. On lui doit 9 semaines et demie, Liaison fatale, Proposition indécente. On lui doit aussi, alors encore avant, c'est un film qui a fait sa réputation, Flashdance. Mais là, c'est un film extrêmement...
Tu dis Flashdance, toi.
Pardon ?
Tu dis Flashdance, toi.
Flashdance.
D'accord.
Oui, Flashdance. Okay. Flashdance.
Mais
là, c'est un film très profond et très initiatique sur l'impossibilité du retour après la guerre. C'est avec Tim Robbins et Elisabeth Peña. Et c'est un film dans lequel on cite, c'est quand même rare dans un film de Hollywood, on cite Maître Eckhart, qui était quand même un grand théologien chrétien. Vous voyez, c'est extraordinaire. Le film est nourri, truffé de références à la Kabbale. C'est un film initiatique, extrêmement profond. Et je voudrais donner le nom du scénariste, parce que c'est quand même grâce à lui que ça se passe comme ça. C'est Bruce Joël Rubin. C'est vraiment un film très fort et qui mérite d'être vu, pour si vous ne l'avez pas vu, ou revu, parce que ça vaut le coup.
L'échelle de Jacob d'Adrien Lyne.
Lyne.
À toi. À toi, Jean-Marc.
Alors, pour compléter la découverte de Father, Mother, Sister, Brother, on peut revoir un certain nombre de films de Jim Jarmusch sur une plateforme qu'on aime beaucoup, qui est la Cinéthèque,
oui.
Qui présente 7 films de Jim Jarmusch. Tout à l'heure, Florence disait, j'étais complètement d'accord, que Jarmusch a reçu le Lion d'Or pour un film qui n'est pas un de ses plus grands films. Et là, ses deux plus grands films, à mon sens, sont montrés en ce moment sur la Cinéthèque. D'une part, il y a Only Lovers Left Alive, avec Tilda Swinton, qui est l'histoire d'un couple de vampires, mais de vampires très spéciaux, puisqu'ils ne chassent pas, ils ne tuent pas. C'est un peu des vampires végétariens qui ne se nourrissent que de sang de synthèse. Et c'est un film magnifique sur le couple et sur la conjugalité. Quand on a l'éternité devant soi, comment on fait pour vivre ensemble? C'est vraiment magnifique. Et l'autre film qui peut répondre à pile ou face, c'est Dead Man, qui est pour moi le western ultime sur la déconstruction de tous les mythes du western. Et où Jarmusch filme... vraiment l'Amérique comme un cimetière, comme une nation fondée sur un amoncellement de cadavres, et tout ça dans un noir et blanc qui est un des plus beaux noirs et blancs de l'histoire du cinéma, et avec une musique de Neil Young qui est à la fois stridente, obsédante, qui vraiment, c'est un film génial, Dead Man.
La rétrospective Jarmusch, donc, sur la plateforme de la Cinéthèque. Jean-Marc Lalanne, Florence Colombani, Marie Sauvion, Christophe Bourseiller, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter pour le prix du Masque en choisissant votre film français et votre film étranger de l'année 2025 en nous adressant un mail à lemasqueetlaplume@radiofrance.com. Guillaume Giraud et Anaïs Reynard ont réalisé ce numéro du Masque avec Marie Le Peintre, Nadège Antonini et Alex Olarewaju Otinois aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la programmation d'émissions avec l'aide de Zora Degout. La semaine prochaine, nous commencerons à débattre de la rentrée littéraire de janvier avec d'autres enthousiasmes ou désaccords et liberté critique dans tous les cas.